CD numéro 2, fin et suite du message numéro 1.
Mais même dans cela, la moindre des choses, tu es logé, nourri, blanchi, la moindre des choses, c'est que quand même, tu puisses faire le minimum, même arroser les fleurs. Parce que quand après on te dira, sors de chez moi, tu diras, la mère, la tante, la cousine est mauvaise, surtout les orphelins. Oh, parce que j'ai perdu mon père et ma mère, j'ai horreur de ça. Le jour où un orphelin me dit ça, je lui dis, c'est parce que tu es paresseux. Laisse ton père et ta mère là où ils sont. Parce que quand ils t'ont créé, là, ils t'ont créé avec deux mains et deux pieds. Même s'ils n'ont pas eu le temps de t'expliquer, dans toute la sagesse totale, comment utiliser cela de toutes les manières, il y a quand même un minimum qu'ils t'ont appris. Ils t'ont quand même appris à descendre du lit, à arranger le lit sur lequel tu as dormi, à prendre au moins le gobelet pour que tu puisses mettre de l'eau à la bouche. Donc, racontez tout ce que vous voulez, mais ce sont des histoires. Si tu vis avec des gens, tu as l'obligation. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il est temps qu'on arrête cette fièvre familiale africaine qui fait qu'on garde des paresseux et des improductifs dans la maison. Si Dieu lui coupe, nous aussi on doit couper. Ton enfant chez toi, blanchi, nourri, la moindre des choses, c'est qu'il lave les assiettes. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. S'il veut manger, la Bible est claire, celui qui mange, c'est celui qui travaille. Tu ne laves pas les assiettes, tu ne manges pas. Ça ne se négocie pas. Maintenant, les mamans, serrez le cœur. Même si le cœur fait mal, laisse-le mourir de faim. Il ne va pas mourir. Tout ce qu'il a accumulé là jusqu'à l'âge de la punition là, il a des réserves. Donc un jour là, il faut plusieurs jours pour véritablement mourir de faim. C'est pas un jour qui suffit à te faire mourir. C'est faux. Regardez l'expérience avec les Éthiopiens à l'époque. Regardez même les Juifs, avant d'être brûlés dans les chambres à gaz, on les empêchait de manger. Même dans leur squelette, ils se levaient. C'est pas un jour de manque qui va tuer votre enfant. Mais ce manque-là va l'apprendre une chose. On devient productif si on veut avoir. Vous ne pouvez pas être dans une maison. C'est vous, la maman seule, qui préparez. Si ce n'est pas la maman, c'est la ménagère ou le cuisinier. La fille qui est assise là, qui passe son temps à mettre le vernis et à mettre des pantalons taille basse, avoir les mêmes mèches que vous, elle ne travaille pas. Vous vous pliez à ses exigences. Donc, elle devient maître de vous. Parce qu'au nom d'un certain amour maternel, on ne peut pas dire non. Mais est-ce que vous savez ce que vous êtes en train d'élever? Ma fille, tu viens. Tu ne prépares pas. Tu ne manges pas. Ma mère nous faisait ça. Souvent, vous savez, quand on est enfant, quand on nous envoie, on dit toujours... Même j'ai fait ça. Jusqu'à un jour, ma mère m'a dit, elle m'appelle Coco, elle ne m'appelle pas Patricia. Elle dit, Coco, elle me dit, tu veux manger? Je dis, oui. Elle me dit, tu as vu ce que j'ai préparé? Je dis, ah oui, ma maman, mon plat préféré. Elle dit, tu le mangeras le jour où tu le prépareras. Je vous assure que ça fait mal, hein. Et puis tu commences à critiquer ta mère dans le cœur et puis tu dis, ah, je sens que ça, c'est pas ma mère, hein. Vraiment, cette femme-là est contre mon succès. Et quand on va retrouver les copines, je t'assure que cette femme-là, et on commence, on débite. C'est après qu'on comprend. Quand ma mère vous disait, parce qu'on l'avait surnommée Margaret Thatcher à l'époque, est-ce qu'elle était très dure? Alors, quand elle arrivait, quand elle vous a dit, elle ne vous disait jamais sans colère, hein. Si tu ne fais pas, tu ne manges pas. C'est-à-dire que la manière dont elle vous le dit, vous n'apprenez pas au sérieux. Et quand elle fait la table, il n'y a pas votre assiette. Elle n'est pas là. Pourquoi elle va être là? Tu as refusé de préparer. Nos parents ne sont pas nos esclaves. Ils sont à notre service, mais derrière ce service se cache une formation à créer notre propre espèce. Elle ne prépare pas. Elle ne mange pas. Point barre. Ça ne se négocie pas. Elle ne fait pas le ménage. Elle n'a pas vos draps. C'est ton argent qui paye les draps. Donc, tu lui fais grâce d'avoir des draps parce que ton cœur maternel dit qu'il faut que tu t'en occupes. Maintenant, la Bible dit, s'il est insensé, alors on agit en insensé. La Bible est claire. La folie. Pensez que la Bible est malade. Quand la Bible dit la folie, c'est qu'elle sait hein, que les enfants sont fous. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Elle dit, la folie est attachée au cœur. C'est la verge de la correction. C'est la manière dont vous allez corriger l'enfant qui ôtera la folie. C'est-à-dire, cette folie va se transformer en sagesse. Mais quelquefois, ça coûte le prix de serrer son cœur. D'accepter que nos parents disent, tu es méchant. Ça ne fait rien. Je me rappelle qu'à l'époque, David et Jonathan, les gars, vous débarrassez la table. Quelqu'un est venu me dire, mais toi aussi, ils n'ont que 2-3 ans. J'ai dit, ça c'est ton problème. Moi, je leur apprends maintenant, le réflexe doit naître maintenant. Dès qu'ils finissent, même s'il doit tomber avec son assiette, il tombera avec son assiette. Mais pourvu que le réflexe, c'est qu'après avoir mangé, il l'enlève, il le dépose à la cuisine. Même si c'est par terre, le réflexe est déjà acquis. Ça a quitté le salon pour aller à la cuisine. Le reste, maintenant, c'est moi. Plus les pieds vont s'allonger, plus le reste se fera. Pourquoi? Parce qu'après, vous allez devenir esclave de vos enfants. Et vous allez dire, je n'ai vécu que pour eux. Et quand vous voulez vivre, c'est là maintenant vient la crise cardiaque et vous dit au revoir. Vous dites, ah, je n'ai pas vécu. C'est la faute de qui? Vous êtes utile. Encore, c'est à vérifier. Parce que votre utilité passe par la transformation de la personne à qui vous rendez des services. Si la personne n'est pas transformée, alors vous n'êtes pas utile. Vous aussi, vous êtes devenu inutile. Parce qu'il n'y a pas de fruit. Est-ce que ça va? Donc, nous devons porter du. C'est bien. Je crois que nous commençons à comprendre. Nous sommes le fruit du Seigneur. Et à partir du moment où nous sommes le fruit du Seigneur, nous sommes une semence. Et la semence que nous sommes va devoir grandir. Nous allons être un plant, une personne présentée devant le public qui aura toutes les formes nécessaires, soit homme, soit femme, mais qui aura un objectif précis, développer sa propre espèce. Entre parenthèses, le fait que nous soyons mariés ne veut pas dire que c'est madame qui doit développer une seule espèce. Quand on dit monsieur et madame, ça veut dire que chacun des partenaires déploie son espèce dans l'enfant que vous engendrez. Si Dieu savait qu'il y avait besoin qu'une seule personne, si ce n'était que les hommes. Mais si Dieu dit homme et femme, ça veut dire que chacune des espèces représentées doit se reproduire dans l'enfant. Alors à ce moment, l'enfant devient un fruit parfait pour Dieu. Donc voilà, il y a une chose justement. Nous avons vu que tout a été fait pour un but. Tout a été fait pour Dieu et tout a été fait pour répondre à un besoin. Alors si tout a été fait pour un but, pour Dieu et pour répondre à un besoin, sachez que si vous existez, ce n'est plus pour vous. Cessez de vouloir vivre votre vie selon votre propre désir. Parce que vous allez apprendre que si vous vivez selon vous, vous serez retranché. Peut-être pas maintenant, plus tard. Parce que Dieu nous attend toujours à un carrefour. Ne prenons pas notre vie à la légère. Ne prenons pas notre vie à la légère. Dieu est un bon Dieu, alléluia. Dieu ne fait rien pour rien. Si Dieu nous amène à cette dimension, c'est parce que Dieu a un objectif assez particulier. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous en sortir de cette façon. Tout ce que Dieu crée a un objectif précis. Porter du fruit, ou encore être productif, ou encore avoir une vie fructueuse, commence. Et c'est là l'objectif de tout ce que j'ai envie de vous dire. Commence. Quand porter du fruit devient pour nous un objectif. Oh, je dois avoir une vie abondante. La vie abondante, tu ne l'auras que quand la vie abondante deviendra objectif. Beaucoup ne réussissent pas parce que porter du fruit n'est pas un objectif pour eux. Mais vous allez comprendre à la longue, si Dieu nous permet de terminer ça, vous allez vous rendre compte que chaque personne ayant existé dans les Écritures, quand chacune de ces personnes a pris conscience de la raison de son existence, elle a fait de son existence un objectif. Et l'objectif final, le but final, l'existence finale, c'est ça le fruit. Parce qu'il y a deux types de fruits, de façon générale. Il y a les fruits qui naissent de notre cœur et il y a des fruits qui naissent de nos mains. Il y a des fruits qui naissent de notre cœur et il y a des fruits qui naissent de nos mains. On ne peut pas être productif si nous n'avons pas l'objectif d'être productif. Vous ne serez jamais un chrétien compétent si la compétence du christianisme n'est pas pour vous un objectif. Vous ne pourrez jamais être un chrétien vivant dans l'abondance si les fruits ne sont pas votre objectif. Vous ne pourrez jamais réussir si la volonté de Dieu n'est pas pour vous un objectif. Parce que l'accomplissement de la volonté de Dieu se traduit par la capacité à produire du fruit. On ne peut pas produire du fruit en dehors du Seigneur. Et c'est justement ce que Dieu exprime dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le sarment ne peut porter du fruit s'il ne demeure attaché à moi. Donc ça veut dire que la capacité à porter du fruit est dépendante de notre désir de faire de Dieu le centre de notre vie. Mais si Dieu devient le centre de notre vie, c'est que sa volonté devient notre objectif. Et si sa volonté devient notre objectif, le plaisir que Dieu a pour nous, c'est quoi? Ce n'est pas tant que nous sommes des êtres humains, c'est que nous serons capables d'accomplir son œuvre et de réaliser notre destin. Mais notre destin est lié à quoi? Au fruit que nous sommes. Donc, il est temps qu'on arrête de s'amuser. Les époux que nous cherchons là, on les cherche pour porter du fruit avec. Les épouses que nous recherchons, on les recherche pour porter du fruit avec. Les enfants que nous voulons, ce sont des enfants que Dieu nous donne afin de porter du fruit. C'est tout cela, c'est tous ces compartiments de la vie. Lorsque nous mourons, qui détermine si oui ou non notre fruit est agréable. Ce qui importe pour Dieu à l'instant, ce n'est pas tant parce que tu as fait une petite œuvre, tu as donné un vêtement et que Dieu est content. Non, ça, on appelle ça les miettes. Ce n'est même pas le soubassement de ce qu'on appelle un fruit. Quand Dieu dit, j'ai pris plaisir à ta vie. Quand Dieu dit dans Apocalypse, à celui qui vaincra. Quand Dieu dit de Jésus, parce que tu es mort, selon Isaïe 53, à cause du travail de ton âme, tu rassasiras les regards. Et à cause de ce que tu as fait sur la croix, tu partageras le butin avec les grands. Vous pensez que c'est parce que Jésus a souri à quelqu'un? Ou parce qu'il a seulement accordé des miracles? Non, c'est là où vous allez réaliser aujourd'hui que le destin que vous négligez, que le destin avec lequel vous vous amusez, il est conséquent à tout un processus de fruits. Parce que le véritable fruit, c'est la fin. C'est pourquoi on dit, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Si Jésus ne serait pas allé jusqu'à la croix et ne serait pas mort à la croix, Jésus n'aurait jamais été élevé au-dessus de tout nom. Il ne se serait jamais assis à la droite de Dieu le Père. Si les apôtres ne seraient pas allés jusqu'au bout de leur destin, les apôtres n'auraient jamais vu leur nom affiché sur les 12 trônes qu'il y aura au ciel. Si Jean-Baptiste n'aurait pas convenablement préparé le chemin du Seigneur, Jésus n'aurait jamais dit de lui que ça a été le plus grand prophète de tous les temps. Parce que trop, c'est trop un peu pour nous les chrétiens. Pour nous, les petits actes que nous posons signifient nous avons porté du fruit. Dieu, le fruit pour lequel il se réjouit, et donc par l'Apocalypse en disant, celui qui vaincra, c'est la fin de ton histoire. Est-ce que ton histoire sera glorieuse? Où elle sera déshonorante? Est-ce qu'au-delà des petits actes que tu as posés, ces actes menaient à produire le véritable fruit? Ou bien c'était des actes pour une satisfaction personnelle? Le fruit dont je vais vous parler aujourd'hui et le fruit dont je continuerai à vous parler, c'est le destin. Le tout n'est pas de dire j'ai un beau destin. Le destin, il est toujours beau parce que Dieu est bon. Que personne ne me mente en disant mon destin est mauvais, c'est faux. Ce sont les étapes qui te conduisent à ton destin qui peuvent être difficiles. Mais ton destin lui-même, il est bon. Parce que tu es issu de Dieu. Et si tu es le fruit de Dieu, selon sa propre espèce, en étant son espèce, tout ce que tu fais doit resplendir de gloire. Donc même ta fin doit resplendir de gloire. Quand tu ne dois pas être ce genre de mort, quand on assiste à ton décès, il y a peine de voiture. Parce que tu es mort incognito. Mais tu dois être le genre de mort. Quand on voit ton cortège, tout le monde s'arrête pour dire « Alors là !» Ou encore « Qui est-ce ?» Tu meurs, même le Malien qui est à côté là, à 100 mètres, ne sait même pas que tu es mort. Il ne se lamente même pas. Ta mort, c'est comme les morts de tous les jours. Il y a une mort qui a été intéressante. C'est peut-être désolant de le dire maintenant, mais quand vous avez vu la mort de l'épouse de votre chef d'État, vous pouvez dire « C'est vrai. » Beaucoup ne l'ont pas fait uniquement parce que c'est l'épouse. Il y a eu un magnétisme qui a mené chaque Gabonais à pleurer. Qui d'entre vous a été particulièrement en contact avec elle? Pas beaucoup. Mais si on en arrive là, c'est parce qu'il y a eu des œuvres. Il y a eu un destin. même s'il n'a peut-être pas été terminé, mais ce destin a eu une influence à tel point que tout le monde s'est plié. C'est ça qu'on appelle porter du fruit. Parce que vous pouvez donner l'argent à tout le monde, mais aller en enfer. Vous pouvez être la femme la plus extraordinaire, mais vous retrouvez en enfer. La mère la plus affectueuse, mais vous retrouvez en enfer. L'homme le plus souriant, mais vous retrouvez en enfer. Simplement pour vous dire que le fruit que Dieu attend est un ensemble de plusieurs fruits qui passent par un processus et qui vous donne de réussir. C'est le fruit de votre vie. Donc, comme aime dire une de mes filles, les chrétiens sous-marins, faites attention dès aujourd'hui. Les sympathisants, ne soyez plus sympathisants. Engagez-vous. Au lieu des sympathisants, devenez des adhérents. Les chrétiens pingouailleurs, commencez à aller tout droit. Les chrétiens superficiels, commencez à devenir naturels. Les faux prophètes, devenez de vrais prophètes. Parce que quand Dieu dit le jugement, pourquoi on est jugé? Pour évaluer le fruit. Pourquoi êtes-vous jugé? N'est-ce pas pour évaluer le fruit? Le fruit de qui? Le fruit de vos actes. Alléluia. Amen. Vous comprenez qu'on ne s'amuse pas avec sa vie? Nos jeunes sœurs chrétiennes, et j'insiste, parce qu'il est beau, soft, tu dis c'est ça. Non. Avec lui, tu dois produire un fruit. Si cette personne vient pour détruire ton envie de vivre, ton envie de donner, tu ne pourras jamais produire le fruit que Dieu attend de toi. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous a engendrés pour produire du fruit durable. Du fruit, pas du fruit spontané. Un fruit durable. Et quand Dieu pose ses œuvres, la Bible parle des œuvres de Dieu qui sont éternelles. La Bible parle en disant que nous nous réjouissons des œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que les œuvres de Dieu nous marquent. Regardez même simplement le ciel. Pourquoi nous sommes émerveillés? Les arbres. Pourquoi nous sommes émerveillés? Même quand nous voyons notre frère et notre sœur, quand on dit, oh mon Dieu, quel bel homme, quelle belle femme, on est émerveillé par quoi? La sœur ou le frère, ou l'homme ou la femme que tu admires pour sa beauté, son élégance, c'est une œuvre, c'est l'œuvre de qui? C'est pas l'œuvre de l'Éternel. Pour toi, c'est où? Et son œuvre est éternelle. La preuve, c'est que si cette personne prend conscience de la raison de son existence, elle va se positionner. On peut tout dire d'Albert Schweitzer. Oh, il est rosicrucien, il est méchant, il est ceci. Mais Albert Schweitzer a une œuvre qui marque jusqu'à aujourd'hui. Il est mort, hein? Sa femme est morte. On vient même d'enterrer son fils ou sa fille. Mais il est là. Albert Schweitzer restera là tant que la terre subsistera. L'hôpital Albert Schweitzer restera à l'embarrané. C'est une œuvre qui dure. Et Dieu pourra lui dire, Schweitzer, pour ça là, en cela tu m'as ressemblé. Comme mes œuvres sont éternelles, ton œuvre a été éternelle. Quand Dieu parle de nos œuvres, elles doivent être indélébiles. Qu'on meure ou pas, on parlera de nos œuvres. C'est-à-dire que lorsque Dieu va venir, c'est ça qui va faire peser la balance en notre faveur. Il faut que vous arriviez à la dimension où les femmes, vous pouvez stupéfier vos époux. Que le fait qu'ils disent « Sans toi, je ne peux rien » ne soit pas un mot. Que ce soit une réalité. À telle enceinte que lorsque Dieu te verra et qu'il te prendra, il dira « À cause de toi, mon serviteur a atteint cet objectif. » Bonne et fidèle servante. Vice-versa. Il faut que lorsque Dieu te prenne, il dise « À cause de toi, ma fille, et ensemble, à cause de vous, cet enfant et la communauté, à cause de vous, le Gabon. » Que Dieu nous bénisse ce matin. Ne jouons pas avec nos vies. Ne nous amusons pas et ne faisons pas de notre vie une roulette russe. Aujourd'hui, on est là. Demain, on n'est pas là. Aujourd'hui, on assume. Après, demain, on n'assume pas. On fait comme on veut. Non. Il y a une chose que vous allez comprendre. Lorsque nous allons continuer l'étude, vous allez comprendre en fait que ce qui rend une personne extraordinaire, ce n'est pas sa personnalité, mais c'est l'œuvre qu'elle fait. quand on dit cet homme est bon, ce n'est pas le physique de la personne qui est bon. Parce que vous ne pouvez pas le manger et savoir si c'est bon. On ne mange pas les hommes. C'est vrai? Mais qu'est-ce qui vous amène à dire c'est bon? C'est l'œuvre de ses mains. Mais l'œuvre des mains. Dieu nous a donné toute une vie pour y arriver. Donc quand on s'amuse à aller à gauche, à droite, un coup on est en Égypte, après on revient à Canaan. Toutes ces années que vous passez sont des fruits que vous ne matérialisez pas. Ces fruits nécessaires au fruit final. Donc l'éclat du fruit final ne sera jamais ce qu'il devrait être. Alors, si une véritable couronne vous aurait été réservée, vous ne l'aurez pas. Ou si vous l'avez, quand même dire mon époux, ce serait un fil de fer doré. À telle enseigne que même sur votre tête, on va se demander, même si vous en avez une. Surtout pour nous qui avons beaucoup de cheveux, ça va rentrer là et puis on aura du mal à croire qu'on a une couronne. Même les anges diront, tu es sûr que tu fais partie de nous, où est ta couronne? Sors du... Quitte-la. Parce que la couronne ne sera pas visible. On joue trop avec notre vie. Trop. On s'amuse trop avec notre vie. Parce que la religion chrétienne nous a dit, il suffit de... Je vous ai enseigné ici que la religion, en fait, ne vient pas régler le problème de Dieu. La religion vient régler nos problèmes basiques. Ça vient satisfaire notre égocentrisme, notre égoïsme. Tant que ce qu'on vous demande va dans la vision de satisfaire votre égoïsme, c'est de la religion. Parce que le royaume a pour objectif les autres et non pas soi. C'est pourquoi Christ pouvait dire, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Je m'arrête là. C'est tellement passionnant que si je ne m'arrête pas, levons-nous et nous allons prier. Mon cri ce matin pour vous, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, vous regardez votre vie comme un trésor. Un trésor dont l'éclat ne dépend que de vous. Un trésor dont l'admiration ne dépend que de vous. Une existence dont l'éclat attirera les autres. Rien de tout ce que vous faites a des répercussions dans le ciel. Et tous les actes que vous posez pensant rouler Dieu où vous roulez, où roulez même le voisin, le partenaire, l'enfant qui est là, c'est à vous-même que vous le faites. Parce que chacun de ces actes seront comptés ou retranchés et déterminera la fin de votre destin. Pour ceux qui nous suivent à la télévision, c'est un message qui ne se limite pas aux chrétiens. Tout le monde a pour objectif de produire. Mais la qualité de notre production dépend de la manière dont nous nous tenons face à notre vie. Et pour nous qui sommes chrétiens, la qualité de notre éternité dépend de la manière dont nous avons traité le fruit. Il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'on se prenne au sérieux. Si vous n'êtes pas capable de faire, si vous n'êtes pas capable d'avoir, c'est parce que vous avez décidé de ne pas être utile. Et ce matin, nous allons prier
afin d'engendrer, de fabriquer cette capacité à l'utilité en nous. Évitons d'être religieux et d'attendre tout de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour que nous attendions tout de lui. Il nous a créés justement pour que nous produisions. Il n'a plus besoin de nous. Il est en train de nous dire que c'est la terre qui a besoin de nous. Alléluia. Nous voulons changer notre pays, c'est nous. Nous voulons changer notre environnement, c'est nous. Alors prions afin que Dieu nous rende capables d'être utiles. Je ne dirais même pas que Dieu nous rende capables. Il nous a donné cette capacité. Mais que Dieu nous donne d'apprécier, c'est mieux. C'est l'expression appropriée. D'apprécier d'être utile. Élevons nos voix et prions.
Si vous désirez vous procurer la liste complète de nos CD audio et DVD, écrivez à l'adresse suivante missionjcr@yahoo.fr. Vous pouvez également nous contacter au 00 241 07 29 68 47 et au 07 39 82 79. Merci et que Dieu vous bénisse. God bless you.